Les cours du Collège de France, Kyle Harper, cher Avenir commun durable.
Bonjour, je vous remercie de votre présence. C'est notre sixième cours sur RIT. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Joe Manning de Yale, qui je vous présenterai après une brève pause qui suivra ma conférence. Ça marche ? Alors, c'est parti. L'agriculture et l'élevage ont vu le jour dans le croissant fertile, une vaste zone de terre verdoyante formant un arc qui s'étend du littoral oriental de la Méditerranée au plateau qui abrite les sources du Tigre et de l'Euphrate et aux vallées qui s'ouvrent sur le golfe Persique. La Syrie se trouve au centre de ce demi-cercle. Son système agricole dépend des précipitations locales, des eaux souterraines stockées et des eaux de ruissellement provenant des montagnes du sud de la Turquie. En général, la saison de pluie est en hiver, entre novembre et mars. Au cours de la dernière génération, la Syrie a connu trois sécheresses. Le plus grave de ces sécheresses a commencé par de faibles précipitations au cours de l'hiver 2006-2007. La situation s'est aggravée lorsque les pluies ont de nouveau fait défaut l'année d'après, puis l'année suivante. La sécheresse qui a sévi pendant 3 ans en Syrie fut la plus extrême jamais enregistrée dans la région à l'aide des données instrumentales. Selon un expert, il s'agit de la pire sécheresse de longue durée et de la plus grave série de mauvaises récoltes depuis le début des civilisations agricoles dans le croissant fertile il y a plusieurs millénaires. La sécheresse s'est soldée par la misère et le chaos. Les récoltes de blé furent particulièrement mauvaises, le 3/4 des agriculteurs du nord-est du pays ayant perdu l'intégralité de leur culture. Le bétail fut décimé. L'FAO estime que le pays a perdu la moitié de ses animaux de ferme. De plus, le bilan humain fut lourd. Les Nations Unies estiment que 800 000 personnes ont perdu la moyenne de subsistance à cause de la sécheresse. Des millions d'autres ont sombré dans l'extrême pauvreté. Par désespoir, les populations ont quitté les campagnes pour s'installer en ville, ne faisant qu'aggraver la pauvreté et la surpopulation des villes. Par ailleurs, les causes et les effets de la sécheresse ont été accentués par des politiques et des choix, par la mauvaise gouvernance et la myopie économique. Le régime bassiste dirigé par Bachar al-Assad avait encouragé les agriculteurs à consacrer leurs terres à la production de blé gourmande en eau. Les nappes phréatiques existantes étaient épuisées. De plus, cette population était en pleine croissance, une croissance démographique rapide. Mais, en somme, il n'y avait tout bonnement plus d'eau. En mars 2011, on assista aux premières manifestations contre le gouvernement. Très vite, le régime d'Al-Assad a répondu par une répression brutale. Les conditions étaient réunies. La guerre éclata. La guerre civile syrienne a commencé en 2012 et se poursuit encore aujourd'hui. On estime qu'elle a fait entre 500 000 et 600 000 victimes, ce qui en fait l'un des conflits les plus meurtriers de ce siècle. Il s'agit d'une crise humanitaire de grande ampleur, avec plus de 6 millions de personnes déplacées à l'extérieur du pays. Des centaines de sites du patrimoine culturel ont été endommagés ou entièrement détruits par les violences. Le pays reste fragmenté. L'infinie souffrance du peuple syrien est une tragédie humaine dont l'ampleur ne saurait se résumer à des chiffres. La guerre civile provoquée par la sécheresse en Syrie est l'exemple le plus évident du lien de causalité directe entre le changement climatique et les conflits. Nous disposons de preuves détaillées pour chaque maillon de la chaîne, les précipitations quotidiennes au millimètre près, les rapports sur les rendements agricoles par région et par village, les prix des denrées alimentaires dans les marchés, les transcriptions textuelles des manifestations et les comptes rendus internationaux des troubles violents qui ont éclaté pour ces raisons. Pourtant, vous devez me pardonner de ne pas vous avoir tout dit, car ce que je vous ai présenté jusqu'à présent est un récit des événements à sens unique, qui va du changement climatique à la guerre. En fait, ici il s'agit de l'exemple le plus évident du lien entre le climat et les conflits, il faut admettre qu'il est clair comme de l'eau de vaisselle. Chez les universitaires, ce débat fait encore et toujours rage autour de cette reconstruction des événements. Malgré tout, il faut admettre qu'il existe toute une série d'arguments de bonne foi contre cette version de l'histoire. La Syrie est une nation complexe, marquée par de fortes tensions. Le régime en place est une autocratie corrompue et impitoyable. La Syrie est sujette à la sécheresse. Vous remarquerez néanmoins que les sécheresses des décennies précédentes, les dernières en date, n'ont pas entraîné des conflits. Ce sont les mauvaises gestions des ressources en eau et le délabrement des infrastructures rurales qui ont fragilisé les agricultures face à la variabilité prévisible du climat. En outre, le nombre des personnes ayant migré vers les villes a peut-être été exagéré et, dans tous les cas, ces derniers n'ont pas été les acteurs principaux et les contestants du régime. Le conflit syrien est donc notre point de départ, un passé très récent à la frontière entre l'histoire et l'actualité. Ce point de départ nous rappelle la complexité du problème auquel nous sommes confrontés pour aborder le sujet d'aujourd'hui, à savoir le lien entre les changements climatiques et les conflits. Je préfère vous prévenir que les choses ne deviennent pas plus simples à mesure que l'on remonte dans le temps. Les détails deviennent de plus en plus flous et le motif de plus en plus obscur. Pour rester dans mon domaine, l'histoire romaine, il y a des cas où je soupçonne fort que le stress climatique ait joué un rôle dans les déclenchements d'un conflit. Il a pu contribuer aux motivations de la guerre le long de la frontière nord de Rome à la fin du IIe et au milieu du IIIe siècle, en poussant des populations comme les Goths à franchir la frontière romaine. Plus tard, au IVe siècle et ensuite, les changements climatiques pourraient avoir influencé la formation et les déplacements des groupes nomades des steppes, comme les Huns. Il existe des preuves, des cernes des arbres témoignent de graves sécheresses en Asie centrale, des bons cas comparatifs et des bons modèles. Cette déduction est logique, mais il est inévitable que les déductions soient beaucoup plus incertaines dès lors que l'on ne dispose que de données les plus sommaires. De plus, il y a beaucoup de guerres dans l'Antiquité romaine où le climat n'a rien à voir. Il faudrait y inclure la majeure partie de l'expansion romaine. À mon avis, la conquête de la Gaule par Jules César était motivée par l'appât du gain, la gloire et l'ambition politique. La recherche de facteurs climatiques dans ce cas précis serait sans doute une impasse. Je voudrais également éviter toute déception quant à la conclusion de la conférence d'aujourd'hui. Il n'existe pas de conclusion définitive. À l'interface entre le changement climatique et la réponse sociale, le lien entre le climat et les conflits représente l'une des questions les plus difficiles à élucider. Dans le monde de la recherche, les avis sont partagés sur les questions de savoir si le stress climatique augmente la fréquence ou l'ampleur des conflits violents. Les chercheurs utilisent des preuves différentes qui débouchent sur des conclusions différentes. Et parfois, les chercheurs utilisent la même preuve qui débouche sur des conclusions différentes. Cela n'a rien de surprenant. La guerre est synonyme de chaos. En revanche, il est utile d'étudier la question, car les enjeux sont d'importance. Même si la question échappe à toute conclusion catégorique, il convient de faire le point sur ce que nous savons et ce que nous ignorons. Et comme toujours, le double objectif de notre sous-domaine, l'histoire du climat et de la société, et d'enrichir notre compréhension du passé et du présent. Nous pouvons tirer des leçons, y compris de nuances et de doutes, de la recherche sur le conflit récent dans notre étude du passé. En même temps, nous avons besoin d'une perspective historique plus longue pour comprendre le présent. Ce constat vaut tout particulièrement pour la guerre, pour laquelle les dernières décennies ne sont assurément pas représentatives de l'expérience humaine. En effet, nous avons vécu une anomalie, une longue période de paix entre les grandes puissances. Cela ne fait aucun doute. La grande question est de savoir si cette paix anormale entre grandes puissances peut se poursuivre plus ou moins perpétuellement. À cet égard, le changement climatique pourrait être lié à la réponse. La conférence d'aujourd'hui se concentre une fois de plus sur un thème général plutôt que sur un épisode précis, à savoir la relation entre le changement climatique et les conflits dans le passé. Alors que nous avons déjà abordé le thème de la famine et de la peste, ce n'est que de justice de passer au cavalier de l'apocalypse suivant, le cavalier de la guerre. Examinons l'évolution de l'apparition des conflits dans les rapports successifs du GIEC, qui est un bon jauge de l'évolution de l'état de connaissance scientifique. La question épineuse du changement climatique et des conflits met en lumière les forces et les faiblesses de l'épistémologie du GIEC. Le GIEC accorde une valeur prépondérante au consensus et à la probabilité. Consensus à probabilité. Ce rapport cherche à identifier les points sur lesquels l'opinion scientifique s'accorde et à prévoir les résultats les plus probables des actions entreprises. Il s'agit d'un cadre parfaitement logique, mais c'est un choix et il est sujet aux critiques. Concernant le lien entre le climat et les conflits, les rapports du GIEC reflètent le fait qu'il n'existe pas de consensus solide et qu'il est difficile de prévoir les conflits. Jusqu'à la fin des années 1990, les conflits n'étaient pas un thème majeur de la recherche sur le climat. Ce sujet était absent du premier rapport du GIEC. Dans la recherche universitaire, il y avait tout au plus un ou deux articles par an sur ce sujet. Le troisième et quatrième rapport d'évaluation évoquent davantage le terme « conflit », datant respectivement de 2001 et 2007, même si ce sujet demeure encore très très secondaire. Mais à partir de 2007 environ, on assiste à une explosion de recherches menées par des spécialistes de sciences sociales pour tenter de comprendre le lien entre le climat et les conflits, d'une manière plus rigoureuse et plus empirique. En résumé, il y a eu un effort pour asseoir la recherche sur les conflits climatiques sur des bases scientifiques solides. L'un des résultats est que le lien entre le changement climatique et les conflits est beaucoup plus important et visible dans les 5e et 6e rapports d'évaluation en 2014 et 2022. Toutefois, les conclusions sont devenues plus prudentes car elles s'appuient sur un plus grand nombre de travaux évalués par des pairs et plus rigoureux. Le 5e rapport note que dans certaines régions et dans certains contextes, comme chez les sociétés pauvres, ayant un passé de mauvaise gouvernance et étant confrontées à la rareté des ressources, le changement climatique est susceptible d'intensifier les mécanismes connus de conflit. La dégradation des ressources naturelles, résultant à la fois de la surexploitation et du changement climatique, contribuera à accroître les conflits liés à la répartition de ces ressources. Toutefois, dans l'ensemble, ce message prudent reflète bien l'état de la question. Quant au lien entre le climat et les conflits dans la littérature scientifique, le 5e rapport constate que certaines de ces études concluent à une relation faible, d'autres à l'absence de relation, et dans son ensemble, la recherche ne conclut pas à l'existence d'une relation positive forte entre le réchauffement et les conflits armés. Le 6e rapport le plus récent est tout aussi hésitant. La cause majeure de cette ambiguïté réside dans la nature même de la guerre. Sur ce point, même les historiens, et plus généralement les chercheurs en sciences sociales, ne peuvent se passer d'un peu de philosophie. Le plus grand théoricien de la guerre, dont la nature chaotique et complexe les dépasse souvent, sont arrivés à la conclusion que la guerre ne peut se réduire à aucun principe ou règle générale. Le général prussien Karl von Clausewitz, dans son œuvre inachevée de la guerre, déclare que la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens. Il assure sans ambiguïté que la guerre ne peut pas être décrite par des lois. Aucune formulation normative suffisamment universelle pour mériter le nom de loi ne peut être appliquée à l'évolution constante et à la diversité des phénomènes de la guerre. Von Clausewitz défendait la prédominance de la friction dans la guerre, les hasards, le bruit, l'entropie. Léon Tolstoï, dans le dernier des chapitres philosophiques de Guerre et Paix, voit toute la problématique de la liberté humaine et du déterminisme à travers le prisme de la guerre. Et il conclut qu'il ne peut y avoir de régularité générale des modèles prévisibles, des lois naturelles lorsqu'il s'agit de la guerre. en raison du pouvoir transcendant de la liberté et du libre arbitre des êtres humains. Si, dans un millier d'années, un seul homme sur un million pouvait agir librement, c'est-à-dire comme il l'entendait, il est évident qu'un seul acte libre de cet homme en violation des lois régissant de l'action humaine détruirait la possibilité de l'existence de toute loi pour l'ensemble de l'humanité. La guerre est une forme de violence organisée omniprésente dans l'histoire de l'humanité. La guerre n'est pas le thème le plus populaire pour les historiens universitaires. Du moins aux États-Unis, l'histoire de la guerre est un thème prépondérant pour l'histoire et les documentaires télévisés. Mais elle est plutôt marginale dans les conférences universitaires. Et pourtant, la guerre est un thème central de l'histoire, en ce sens qu'elle a si souvent été décisive dans le passé, mais aussi dans la mesure où la guerre est historique, parce qu'elle évolue, tout comme l'organisation sociale, la technologie, les valeurs, etc. Pour apprécier la complexité des liens de causalité entre le stress environnemental et la violence, il peut s'avérer utile de comprendre les profondes racines évolutives des conflits, ainsi que les dimensions aléatoires et sociales de la guerre. Le politologue norvégien Alvard Buag a décrit les manières dont les risques liés au changement climatique, phénomènes météorologiques extrêmes, sécheresses, inondations et autres, interagissent avec les systèmes humains pour créer des risques pour la paix. Une entreprise fort utile, à mon avis. Voilà. Je vous propose d'examiner certaines des principales voies de causalité. La menace que le changement climatique fait peser sur la disponibilité des ressources est sans doute le plus évident. La concurrence pour des ressources qui se raréfient peut être la motivation des conflits les plus profondément enracinés. Par le passé, le changement climatique a eu un impact considérable sur la localisation et la productivité des terres agricoles, ainsi que des ressources en eau. Dans le passé comme aujourd'hui, les sécheresses ont poussé les éleveurs à entrer en conflit avec les agriculteurs sédentaires. Il y a de très bonnes raisons d'intégrer la variabilité climatique dans les histoires des groupes d'Asie centrale, des Huns et Mongols. Les conflits de ce type, qui portent directement sur les ressources de subsistance, restent importants aujourd'hui. L'exemple récent, le plus important, est peut-être le conflit de Darfour en Soudan, qui a fait des centaines de milliers de morts en 16 ans et déplacé des millions de personnes. La diminution des précipitations et l'avancée du désert ont joué un rôle dans le déclenchement de la violence. Les agriculteurs et les éleveurs ont des intérêts divergents et, dans ce cas, ils appartiennent à des groupes ethniques différents. Selon Ban Ki-moon, alors secrétaire général des Nations Unies, presque toujours nous parlons du Darfour en usant d'une simplification militaire et politique fort commode. Un conflit ethnique opposant des milices arabes à des rebelles et des agriculteurs noirs. Pourtant, si l'on cherche la cause profonde, on découvre une dynamique plus complexe, il dit. Parmi les diverses causes sociales et politiques, le conflit de Darfour a commencé comme une crise écologique, résultant au moins en partie du changement climatique. Le bilan du conflit soudanais est effroyable, mais il reste l'exception plutôt que la règle. Comme le souligne Buag et ses collègues, de tels conflits, à savoir ceux qui portent directement sur des ressources menacées par le changement climatique, ont tendance à se limiter au niveau local. Une deuxième voie de causalité qu'ils identifient est la relation entre les risques climatiques et la perte de revenus ou la baisse de niveau de vie. Dans ce cas-ci, au lieu d'un conflit direct autour de la disparition des ressources telles que l'accès à l'eau, les effets économiques du changement climatique sont indirects, en réduisant la productivité économique, par exemple en diminuant le rendement agricole ou en limitant la capacité des gens à travailler à l'extérieur. Le changement climatique érode le bien-être d'une société. Qu'ils rejettent la faute sur le changement climatique ou non, les gens perdent confiance en leur gouvernement ou cherchent des solutions désespérées. L'importance de ce lien réside dans le fait qu'il peut expliquer pourquoi le changement climatique peut inciter même des pays relativement prospères à entrer en guerre. Même si les gens ne meurent pas directement de faim, si le niveau de vie diminue, ils peuvent être plus enclins à mener des politiques qui conduisent à la violence. Dans ce cas, le changement climatique est très probablement un facteur de stress agissant de concert avec de multiples autres causes, plutôt qu'un facteur dominant. Une troisième voie, étroitement liée aux deux autres, établit un lien entre les impacts climatiques et la sécurité alimentaire et les chocs de prix. Il s'agit du modèle syrien. La mauvaise récolte en conduit à la faim et à l'instabilité. Cette voie peut susciter la violence entre les États ou la violence à l'intérieur des États, c'est-à-dire la guerre civile. On se souviendra de l'exemple de l'empereur romain Claude, qui a évité ses destins funestes en parvenant à fournir du pain aux habitants de Rome. On peut également penser à l'étude importante que j'ai évoquée dans mon leçon inaugurale, qui établissait un lien entre les épisodes de forçage volcanique et les violences sociales dans l'Égypte ptolémaïque, dont l'auteur est ici. Dans ce cas, les anomalies climatiques à court terme ont provoqué l'absence de crues du Nil. Les pénuries alimentaires coïncident avec l'éclatement des conflits civils. Cependant, dans cette même étude, on constate, paradoxalement peut-être, que ces épisodes de stress climatique semblaient aussi réduire les guerres entre États de manière temporaire. Selon l'interprétation présentée dans l'étude, le stress climatique a entraîné une crise interne telle que les autorités ne songent pas à se livrer à des conquêtes et à des invasions en dehors de leurs frontières. Bouhag et ses homologues établissent un lien entre ces trois voies et la possibilité d'une migration de masse. La rareté de ressources, la baisse du niveau de vie et l'insécurité alimentaire peuvent être des puissants facteurs de mobilité involontaire. Bien entendu, le lien entre les changements climatiques et la migration est une question extrêmement complexe. Il est certain que par le passé, le changement climatique a été un moteur de la mobilité, un facteur décisif dans les déplacements à grande échelle. Et ces migrations peuvent à leur tour déclencher des conflits, tout comme les conflits déclenchent également des migrations. Les changements climatiques futurs présentent d'autres risques pour le pays, qui étaient soit inexistants, soit sans importance pendant la majeure partie de l'histoire de l'humanité. Il n'est pas nécessaire de les examiner en détail aujourd'hui, mais si le fond de glace fait de l'Arctique un nouveau théâtre de rivalité entre grandes puissances, ou si les États-nations sont en désaccord sur le rôle approprié de la géo-ingénierie, c'est-à-dire la manipulation délibérée du climat de la planète, qui pourrait avoir des effets imprévisibles et inégaux, le changement climatique futur posera de tout nouveaux risques pour la paix. Tous ceux qui étudient les changements climatiques et les conflits s'empressent de souligner que les flèches de causalité pointent dans les deux sens. En d'autres termes, non seulement le changement climatique présente des risques pour la paix, mais la guerre exacerbe les causes et les effets du changement climatique, à la fois directement et indirectement. Les armées sont des grandes consommatrices d'énergie fossile. En outre, les sociétés en guerre sont beaucoup plus vulnérables aux dangers du changement climatique. Le chaos de la guerre limite la capacité des États à concentrer leur attention et leurs ressources sur le problème climatique. La destruction des infrastructures rend les sociétés plus vulnérables aux ravages de catastrophes environnementales. Demandons-nous maintenant comment un pays comme l'Ukraine pourrait réagir à une inondation ou à une sécheresse. Et on va de même pour la Palestine. Les grandes guerres de l'avenir pourraient affecter le réseau électrique, le traitement et la gestion de l'eau, le réseau d'approvisionnement en carburant, etc. Ces rétroactions pourraient s'effectuer dans les deux sens et en même temps. Le stress climatique déclencherait des conflits, réduisant la capacité à répondre aux défis climatiques. Cette dynamique peut contribuer à la transformation des conflits en guerres de plus grande envergure. Un sujet sur lequel nous reviendrons. L'histoire ici peut nous fournir des exemples. Nous devrions sans doute imaginer qu'il y a eu une interaction de ce type entre le petit âge glaciaire et les guerres sanglantes du XVIIe siècle, contribuant à l'une des périodes les plus violentes de l'histoire de l'humanité. Nous disposons d'une carte de liens de causalité complexe entre les changements climatiques et les conflits. Je souhaite rappeler, une fois de plus, qu'il ne s'agit pas d'un portrait exhaustif des causes de la guerre, qui inclut une série de facteurs n'ayant rien à voir avec la variabilité et le stress de l'environnement. Le militarisme, le nationalisme, le préjugé ethnique, la cupidité et l'ambition de pouvoir sont souvent des motivations plus que suffisantes. Et généralement, les causes de la guerre sont multiples. Il en va de même pour les types de guerres. Dans cet exposé, je fais l'amalgame entre guerres civiles et conflits interétatiques. Mais il existe des différences très importantes entre les deux. Et l'histoire du climat et de la société devrait à terme être attentive aux différentes dynamiques de la violence collective au sein des États et entre les États. Qui révèle les éléments de preuve sur le rôle du changement climatique dans l'accentuation du risque de guerre et pourquoi est-il si difficile de résoudre la question de manière satisfaisante? La réponse est en partie incertaine parce que ce domaine d'études sur le climat et la société est très jeune. L'étude rigoureuse de l'interaction entre le changement climatique et les conflits n'existe que depuis une vingtaine d'années. Les méthodes, les données et les modèles sont encore en évolution. Dans ces circonstances, le pluralisme méthodologique est une bonne chose. Comme l'a souligné mon collègue Sam White ici, les méthodes qualitatives et quantitatives ont toutes leur place. Il nous faut des études de cas détaillées, adaptées aux particularités du contexte, qui nous aident à comprendre les mécanismes de l'impact. Mais cela ne suffit pas, et cette approche ne peut pas être considérée comme scientifique en soi. Elle doit être associée à la comparaison, à l'analyse quantitative, aux modèles qui permettent de mettre à la preuve les hypothèses. Nous pouvons diviser les études quantitatives existantes en deux catégories. Celles qui portent sur une période plus courte, remontant aux alentours de 1900, et celles qui portent sur une période plus longue, remontant à des centaines d'années, voire au début du millénaire. Les avantages et les inconvénients de chaque catégorie sont évidents. Pour les périodes plus récentes, les ensembles de données sont beaucoup plus riches et il est en principe plus facile de contrôler les éventuelles variables confusionnelles afin d'isoler la part des responsabilités imputables au changement climatique. En outre, les parallèles avec le présent sont plus forts, puisque ces ensembles de données reflètent les sociétés industrielles et post-industrielles. Au cours du siècle dernier, c'est généralement un réchauffement anormal accompagné d'une sécheresse qui a provoqué un stress climatique, alors que dans le passé, plus lointain, c'est un refroidissement rapide accompagné de transformations dans le cycle de l'eau qui a menacé la stabilité. Mais la série chronologique plus ancienne offre davantage potentiel qui compense le caractère relativement rudimentaire. Compte tenu de la nature de la guerre, il se peut que il se peut que les 80 à 90 dernières années ne soient tout simplement pas assez longues pour permettre d'observer des tendances majeures. En outre, le climat du XXe siècle a été relativement clément dans le contexte de la variabilité de l'Holocène. Par conséquent, nous avons besoin de pluralisme ici aussi, d'une variété de méthodes appliquées à une variété d'ensembles de données dans la recherche d'un éclairage sérieux sur la question de savoir si le stress climatique a un effet significatif sur la probabilité d'un conflit ou sur son ampleur. Récemment, la recherche a porté son attention sur les conflits en Afrique qui présentent une grande diversité de facteurs géographiques et sociaux. De nombreuses sociétés africaines dépendent directement de l'agriculture pluviale. Une série d'études a examiné le rapport entre les précipitations et les températures et l'incidence des guerres civiles. Un premier groupe a trouvé des liens solides entre le changement climatique, dans ce cas un réchauffement anormal, le stress économique et les déclenchements d'un conflit. Marshall Burke et ses collègues ont affirmé que chaque augmentation de 1 degré de la température entraînait une augmentation de 4,5% des guerres civiles, un effet non négligeable et statistiquement significatif. Mais il s'est ensuivi d'une belle polémique académique à l'ancienne. Certains chercheurs ont contesté ces résultats, soutenant que si l'on modifiait le critère minimum de ce qui constitue un conflit, la pertinence statistique de ce lien disparaîtrait. En outre, l'analyse de départ ne tenait pas compte du fait qu'à long terme, les conflits ont diminué en Afrique, alors que le degré du stress climatique a eu tendance à augmenter. Enfin, d'autres variables, la faiblesse des institutions, la pauvreté, sont de meilleurs facteurs de prédiction de la violence. L'affaire aiguise le fer et, dans l'ensemble, les recherches ont progressé grâce à un débat utile. En guise de note de base de page de l'histoire intellectuelle, il est évident que l'hésitation du GIEC à prendre une position ferme sur la probabilité que le changement climatique augmente le risque de guerre reflète parfaitement ce débat scientifique. Libre à vous de juger, mais la conclusion du GIEC selon laquelle, collectivement, la recherche ne permet pas de conclure à l'existence d'une relation positive forte entre le réchauffement et les conflits armés est un jugement qui repose en grande partie sur des querelles académiques concernant des méthodes statistiques entre deux groupes de recherche concurrents. Bien que ces recherches soient toujours encore, il semble évident que les facteurs sociaux jouent un rôle énorme, mais qu'ils interagissent avec le stress climatique. Au-delà du continent africain, les chercheurs ont utilisé des ensembles de données plus larges sur les conflits pour étudier les effets du stress climatique sur la violence à grande échelle. L'un des efforts les plus importants a porté sur l'impact mondial d'El Niño, oscillation australe à la fin du XXe siècle. El Niño est le mécanisme le plus puissant de la variabilité climatique mondiale, oscillant entre des phases El Niño et des phases La Niña. Son nom, l'enfant, renvoie au fait que dans les phases d'El Niño, les eaux du Pacifique au large des côtes d'Amérique du Sud deviennent nettement plus chaudes autour de Noël, la saison de la naissance du petit garçon, alors El Niño. La relation complexe entre l'océan et l'atmosphère, la température et la pression atmosphérique exercent un effet considérable sur la météo tout autour du Pacifique, et en particulier sur la force, le calendrier et la localisation des pluies de mousson. El Niño apporte des pluies en Amérique du Sud, mais une sécheresse dans le Pacifique occidental. La Niña est un phénomène à peu près inverse. Il est important de noter que les effets d'El Niño sont les plus importants dans les régions tropicales et subtropicales du globe, tandis que l'impact sur les zones tempérées est beaucoup plus faible et plus irrégulier. Les historiens ont accordé une attention considérable à El Niño, dont les effets ont été retracés à la fois dans le passé récent et dans le passé lointain. El Niño a contribué avec le colonialisme à l'échec massif de mousson et à terrible sécheresse dans le sud de l'Asie dans les années 1890. Les années 1780 ont connu une série d'El Niño exceptionnellement forts avec des ramifications mondiales et ces tendances remontent jusqu'à l'Antiquité. Mais que disent les chiffres du XXe siècle? Solomon Zhang et ses collaborateurs ont examiné les données relatives aux guerres civiles entre 1950 et 2004. Ils ont utilisé la base de données Onset and Duration of Interstate Conflict, début et durée de conflits internes, développée de manière indépendante par l'Institut de recherche sur la paix d'Oslo. Un pays connaît un début de conflit si plus de 25 décès liés au combat survient au cours d'une année donnée dans le cadre d'un nouveau conflit. Le risque de conflit est mesuré proportionnellement au nombre de pays, ce qui est important puisque le nombre des États-nations souverains augmente considérablement au cours de cette période. Il distingue également deux groupes de pays, ceux qui sont plus exposés aux effets d'El Niño, à savoir les régions tropicales et subtropicales, et ceux qui sont le moins, en bleu. Dans le pays exposé aux effets d'El Niño, l'augmentation du risque de conflit est stupéfiante. Le risque de conflit en phase La Niña était d'environ 3%, alors qu'en phase d'El Niño, il a doublé pour atteindre 6%. En revanche, dans le pays tempéré, où l'influence d'El Niño est plus faible, aucun effet n'a été observé sur le risque de conflit civil, qui s'est maintenu à environ 2% pendant toute la durée de l'étude. L'équipe a contrôlé un certain nombre d'autres variables, sorties du colonialisme, revenus, démographie, institutions politiques, et les effets d'El Niño sont restés significatifs. Comme ils le font remarquer à juste titre, les oscillations rapides à court terme associées à El Niño ne sont pas les mêmes que le changement à long terme de la température et ou des précipitations. Mais, dans l'ensemble, ce type de travail apporte un témoignage important sur le fait que les chocs climatiques peuvent interagir avec les autres causes et motivations et ainsi augmenter les risques de conflit. L'avantage de ce type de travail est qu'il peut s'appuyer sur des données très riches. Les ensembles de données modernes sur les conflits permettent une quantification détaillée et fiable, jusqu'à l'estimation du nombre de victimes. Les ensembles de données climatiques modernes sont basés sur des relevés instrumentaux et permettent de définir avec précision les variables climatiques relatives. Dans le passé plus lointain, les données sont plus grossières et plus incertaines. Mais une perspective à long terme est essentielle et d'importantes recherches nous permettent de commencer. David Zheng et une équipe de chercheurs de Hong Kong ont été les premiers à utiliser des ensembles de données à long terme sur les conflits et le climat à la recherche de corrélations significatives. En 2006, ils ont publié un article examinant les effets du stress climatique sur 1000 ans d'histoire chinoise. Ils proposent un cadre néo-malthusien très simplifié. Sur le malthusianisme de base, une population croissante exerce une pression sur la capacité de charge des terres agricoles. Et lorsque les ressources sont limitées, les conflits sont plus probables, une sorte de contrôle de croissance démographique que Malthus appelait les obstacles répressifs. Dans le modèle, la capacité de charge n'est pas une caractéristique fixe, mais se déplace elle-même en fonction du changement climatique. Pour les données relatives aux conflits, ils utilisent un vaste ensemble de données sur l'incidence des guerres en Chine. Il y a eu 1672 guerres entre l'an 1000 et le début du XXe siècle. En ce qui concerne les données climatiques, ils s'appuient sur une reconstruction multiproxy de l'hémisphère nord, désormais assez ancienne, qui leur permet d'identifier les phases froides et chaudes. Même si ces données mériteraient d'être mises au jour, l'image globale reste la même. Ils ont également pu superposer des données sur la récolte pour les 170 dernières années de la période d'étude, ce qui est important car ils considèrent l'agriculture comme le mécanisme intermédiaire. L'incidence de la violence à grande échelle en Chine est très inégalement répartie au cours des derniers millénaires, avec une alternance de périodes de guerre et de la paix. La phase d'effondrement et de changement dynastique, comme la transition Ming-Qing, ont été particulièrement violentes. Dans l'ensemble, les chercheurs ont constaté un lien très étroit entre la phase froide et les conflits. Pendant la phase froide, les guerres de toutes sortes étaient presque 50% plus probables en Chine. Le risque de rébellion était encore plus élevé, avec une augmentation de près de 100%. Pendant les phases froides. Bien entendu, il ne s'agit pas de dire que le refroidissement provoque universellement des guerres alors que le réchauffement est bénéfique. Il s'agit plutôt de pressions sur les ressources induites par le climat qui ont souvent été provoquées par des facteurs solaires et volcaniques à la fin de l'Holocène et qui ont entraîné des tensions sociales. Les effets de la température ont été les plus faibles dans le sud de la Chine, qui est humide et subtropicale. Les auteurs ont observé que les risques de conflit augmentaient le plus avec un décalage de 5 à 10 ans après un refroidissement important, de sorte que les réponses au stress et aux privations n'étaient pas immédiates, mais cumulatives. Cela suggère que les facteurs sociaux ont fourni une résilience, mais seulement jusqu'à un certain point. À long terme, la croissance démographique a accru la vulnérabilité au stress climatique. Cet article fait date et pose les jalons de l'étude des tendances à long terme du changement climatique et des conflits humains. L'année suivante, les mêmes chercheurs ont adapté le modèle à l'Europe et interrogent un ensemble de données similaires sur les conflits couvrant une période plus courte, de 1500 à 1800. Ils affirment avoir reproduit leur conclusion, à savoir qu'il existe une corrélation entre un refroidissement soudain et les crises et les conflits. Proposant une sorte d'histoire climatique néo-malthusienne des conflits, ils affirment à nouveau que les changements dans la production agricole représentent les mécanismes majeurs. Cette période couvre la phase la plus sévère du petit âge glaciaire et constitue essentiellement un parallèle statistique aux études qualitatives très fournies de l'historien Jeffrey Parker sur cette période, sur lequel nous reviendrons plus en détail la semaine prochaine. publiée en 2010 dans la revue Climatic Change, l'analyse quantitative la plus longue pour l'Europe a été réalisée par Richard Toll et Sebastian Wagner. Malheureusement, l'ensemble de données qu'ils ont utilisées pour les conflits en Europe depuis l'an 1000 est un site web qui a disparu. Il était informatif, mais pas suffisamment rigoureux. En outre, ces chercheurs ne contrôlent pas la taille de la population ou le nombre de pays. Et idéalement, le taux de conflit devrait être normalisé par rapport à la croissance des références du nombre de personnes et du nombre d'États. Néanmoins, leurs conclusions restent globalement convaincantes, même si l'étude demande à être analysée plus en profondeur. Comme le groupe de Genk, cette étude utilise des reconstructions multipraxies des températures et des précipitations. Plusieurs tendances remarquables s'en dégagent. Tout d'abord, les variables climatiques pertinentes ne sont pas les mêmes partout. Dans le nord de l'Europe, le refroidissement était davantage associé au conflit, tandis que dans le sud-est, c'était le réchauffement qui l'était. La conclusion la plus importante, cependant, est que la nature du lien entre le climat et la guerre change au fil du temps. En fait, il s'agit de la principale conclusion de l'article et, bien qu'elle soit la plus probable, il serait extrêmement utile de tester ces conclusions à la lumière des meilleures données sur les conflits et des séries chronologiques paléoclimatiques révisées. Comment ce lien évolue-t-il? En substance, l'étude met en évidence deux périodes distinctes, avec un changement radical au milieu du XVIIIe siècle. Avant 1750 environ, il existe réellement une corrélation entre le stress climatique et les conflits en Europe. Après 1750 environ, la corrélation est presque zéro. Presque zéro. En d'autres termes, dans l'Europe prémoderne, le climat était probablement un facteur causal. Un facteur causal parmi les autres qui contribuait au risque de conflit. Dans l'Europe moderne, au cours des 300 dernières années, ce lien de causalité s'est considérablement affaibli. Toll et Wagner interprètent principalement ce phénomène selon le principe néo-malthusien. Dans l'ancien régime, les sociétés européennes vivaient à la limite des subsistances malthusiennes. Le stress climatique entraînait des mauvaises récoltes et des pénuries alimentaires, ce qui poussait les États à entrer en conflit. Mais au XVIIIe siècle, les progrès économiques ont commencé à transformer l'Europe. La révolution agricole a dopé les rendements. La croissance des marchés a permis d'atténuer les pénuries. De nouvelles lois sur la protection sociale mettent les populations à l'abri des pires souffrances. Il s'agit là d'une interprétation convaincante mais s'inscrit dans le droit fil des éléments que nous avons examinés dans la première conférence consacrée à la résilience. Si vous vous souvenez bien, le XVIIIe siècle a marqué un tournant. Oui, c'est ça. Un tournant dans l'histoire de la famine en Europe. C'est bien simple, après les terribles souffrances des années 1690, plus jamais les populations de l'Europe occidentale, même en France, n'ont souffert de famines de la même ampleur qui avait entraîné un véritable hécatombe. Il est remarquable que le lien entre le climat et les conflits en Europe semble changer précisément au cours de la même période que le lien entre le climat et les grandes famines. Les causes sont essentiellement les mêmes. Comme précédemment, nous serions tentés d'invoquer la conjonction de la chance et de mon choix. La clémence du climat du XVIIIe siècle est un fait généralement sous-estimé de l'histoire mondiale. Les historiens du climat et de la société préfèrent souvent d'étudier les périodes de crise et de catastrophes. Ils aiment les sujets tels que l'effondrement de l'Empire romain, par exemple. Les phases de stabilité climatique sont moins glorieuses. Mais le XVIIIe siècle a été l'une de ces phases, non sans exception, bien sûr, avec notamment quelques années glaciales dans les années 1740, mais en même temps, la stabilité du climat du XVIIIe siècle n'était que la toile de fond, la matière première à partir de laquelle les hommes ont bâti leur propre destin. Les améliorations technologiques et les choix institutionnels ont libéré les hommes de la misère malthusienne. l'évolution des valeurs et de l'affectif a également joué un rôle important. La tolérance religieuse, peut-être même les Lumières. Après tout, c'est au cours de ce siècle qu'est apparue l'idée d'une paix perpétuelle en Europe, depuis le projet pour rendre la paix perpétuelle en Europe de l'abbé de Saint-Pierre au début du siècle, jusqu'à l'essai vers la paix perpétuelle de Kant à la fin du siècle. Mais je ne fais que survoler cette idée. En fait, il se peut qu'au même moment, l'Europe, dans le XVIIIe siècle, a largement dirigé sa violence vers l'extérieur, dans ses projets d'expansion impériale. Mais l'ambition de l'histoire totale est de voir l'interaction complexe et inattendue de tous les éléments, de l'environnement physique à l'influence des idées, et de le faire sur plusieurs échelles de temps en même temps. Nous avons besoin d'une perspective à long terme pour suivre l'évolution de la relation entre le climat et les conflits, et ce en profondeur, mais aussi pour étayer l'importance de l'action humaine dans le remodelage de cette relation. Dans l'ensemble, comme l'invoquait Sam White, il s'agit d'une frontière où des progrès passionnants sont possibles dans un avenir proche, grâce à trois avancées actuelles. Des données paléoclimatologiques plus nombreuses et de meilleure qualité, des données sur le conflit plus nombreuses et de meilleure qualité, et de meilleurs modèles de causalité qui nous permettent de prendre en compte le rôle des institutions, des tendances économiques et d'autres facteurs dans leur interaction avec le climat. Une nouvelle phase de recherche est donc en cours et nous nous attendons à des progrès au cours des 10 ans à venir. Permettez-moi maintenant de vous proposer un résumé, puis me tourner vers l'avenir. L'étude des changements climatiques et des conflits humains n'est ni très ancienne ni très aboutie, en particulier dans ses dimensions historiques. Ce n'est que depuis une vingtaine d'années que nous disposons de travaux quantitatifs et comparatifs rigoureux pour comprendre les liens de causalité. De plus, le sujet fait polémique dans ce domaine. S'il existe un consensus, c'est qu'il y a une certaine relation entre le stress climatique et la probabilité de conflit, mais que ce lien est modéré et dépend beaucoup du contexte. Il est important de comprendre la voie de causalité. Le changement climatique peut déclencher des conflits autour de ressources en voie de disparition. Il peut nuire au bien-être de l'homme et encourager les comportements violents et peut produire des chocs sur la sécurité alimentaire et entraîner une rébellion ou un conflit. Mais la prudence du GIEC sur cette question reflète fidèlement l'état de nos connaissances. Je constate que l'on se garde de brosser un tableau sinistre et apocalyptique d'un monde dystopique marqué par des migrations incontrôlées et des états-nations modernes dotés d'armes modernes se livrant une bataille obsienne pour l'eau, le carburant ou les terres rares. En effet, cela relève de cauchemars et de films américains à gros budget. Il existe un consensus sur le fait que l'effet de causalité est particulièrement significatif dans les directions opposées, à savoir que la guerre rend difficile la gestion des effets du changement climatique. Cela effraie au sein des États à tous les niveaux de développement économique. Il s'agit également d'un défi pour l'ordre international alors que l'humanité est confrontée au plus grand problème d'action collective globale de son histoire. Cependant, avant toute chose, nous devons souligner que nous avons encore beaucoup à apprendre. L'humilité est de mise. Il existe encore un énorme déficit de recherche sur l'histoire du changement climatique et des conflits. Je pense que dans 5 à 10 ans, cette partie de domaine aura beaucoup évolué et que les recherches actuelles sembleront primitives, comme le sont souvent les travaux des pionniers. Lorsque nous nous penchons sur les questions du climat et des conflits, je nous invite à adopter une vision à long terme et à considérer le passé lointain de l'humanité comme un témoignage de ce qui peut arriver et de ce qui ne devrait pas arriver. J'ai fait allusion au fait que nous vivons une anomalie, ce que l'on appelle parfois la longue paix, caractérisée par l'absence de guerres entre grandes puissances et le déclin des conflits. Aujourd'hui, bien sûr, cette paix semble être très fragile. et ses nomades. Lewis Fry Richardson, polymathe anglais, fut l'un des plus grands penseurs de la guerre du siècle dernier. À partir des données brutes dont il disposait, il a observé que l'intensification des guerres dans l'histoire de l'humanité suivait un schéma très particulier. L'intensité de la guerre, mesurée par le nombre de morts, reflète ce que l'on appelle une distribution en loi de puissance, et non une distribution normale. Ces idées ont été validées à maintes reprises par des données bien plus sophistiquées. Cette observation est fondamentale. La guerre est un phénomène étrange. Par opposition, la taille moyenne d'un être humain, par exemple, est distribuée selon une loi normale. On peut dire, en toute logique, que l'homme moyen mesure 170 cm. Il y a certains hommes sont plus grands, d'autres plus petits, mais l'écart type sont réduits. Toute une série de facteurs influent sur la taille, mais ils la maintiennent autour d'une moyenne. Ainsi, il est logique de parler de taille moyenne. En revanche, la distribution de type de loi de puissance présente un petit nombre de valeurs extrêmes aberrantes. J'emprunte cet exemple à l'informaticien Aaron Closey. Mais si la taille des hommes suivait une distribution en loi de puissance, il y aurait en Amérique 10 000 hommes aussi grands qu'une girafe et un seul Américain plus grand que la tour Eiffel. En fait, l'ampleur des conflits est répartie de la même manière. Dans un monde où il y a beaucoup de conflits de la taille d'un homme, il y en a qui sont de la taille d'une girafe et de temps en temps, il y en a un qui est aussi grand que la tour Eiffel. Cela signifie que la guerre est régie par un ensemble de dynamiques très différentes, entraînées par des rétroactions positives. Les pandémies sont régies par des dynamiques similaires et présentent également cette distribution étrange, où la majorité des épidémies sont de faible ampleur, mais où certains échappent à tout contrôle et ne cessent ensuite de se propager d'elles-mêmes. Il n'y a pas de pandémie moyenne, pas plus qu'il n'y a de guerre moyenne. L'implication essentielle de ce schéma, qui, à mon avis, est peut-être l'éclairage quantitatif le plus important qu'une perspective historique puisse offrir sur la nature du conflit, est qu'il est bien trop tôt pour savoir si la tendance à la paix est vraiment une tendance. À ce titre, les trois dernières années n'ont pas été encourageantes. Nous devrions vraiment nous soucier d'un avenir où les conflits pourraient activer les rétroactions positives inhérentes à l'escalade des guerres. C'est donc, en toute humilité, en vous demandant de me pardonner de dépasser le domaine scientifique et avec quelques connaissances de notre passé, que je me vois poussé à m'inquiéter des liens entre le changement climatique et les conflits. Depuis le petit âge glaciaire, nous n'avons pas connu de changement climatique aussi rapide que celui que nous connaissons actuellement. Et l'avenir proche nous réserve probablement des troubles sans précédent depuis le début de l'Holocène. Il est sans doute vrai que le changement climatique a joué un rôle modeste dans les grands conflits des deux derniers siècles. Mais nous avons bénéficié d'une relative stabilité climatique, une chance, et de profonds changements dans les valeurs et les mentalités qui seront plus importants que jamais et peut-être plus contestés que jamais dans un avenir incertain. Merci.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.